Bien, bonsoir. Donc, je suis Jean-Charles Allan et puis je vais donc essayer de vous parler ce soir des images et de la relation que peuvent avoir ces images avec le divin. Hein, c'était intitulé Les figures du divin. Donc, c'est deux séances, ce mardi et mardi prochain. Et mardi prochain, je vais m'intéresser au XXe siècle, essentiellement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de faire un immense parcours un peu chronologique des origines jusqu'au début du XXe siècle. Et à travers ça, d'essayer de manifester, on va dire, les enjeux qu'il peut y avoir du côté des rapports entre l'art, les images et Dieu, quelque chose comme ça. Donc, peut-être juste pour donner quelques problématiques par rapport à ça, l'histoire de l'art, donc qui va être ce à quoi on va s'intéresser sans arrêt ce soir, c'est une histoire, hein, des histoires qui se racontent. Et moi, ce qui m'amuse, par exemple, je vais commencer donc par les origines, donc la peinture pariétale, la préhistoire. Et ben, finalement, cet art pariétal, il est redécouvert au début du XXe siècle. Hein, Lascaux, c'est Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, une sorte de, comme ça, de retour en arrière. Tout d'un coup, l'histoire de l'art se reconstruit. Hein. On peut penser la même chose pour le XVIIIe siècle avec l'Égypte. Et on peut penser aussi ces retours en arrière qui reconstruisent l'histoire de l'art. Quant à la Renaissance, il y a un retour vers l'Antique. Donc il y a un premier rapport de l'art à l'histoire, qui est pour moi une histoire justement, pas une fiction, mais on se raconte des histoires, on retrouve des histoires. Et là aussi, par rapport à toutes les images qu'on va voir, il faut penser qu'il y a plein d'histoires derrière tout ça. Des histoires que je connais en partie, d'autres que je ne connais pas, que vous connaissez. Hein, et c'est aussi ce travail-là. Il y a quelqu'un qui va être en filigrane de tout ça, c'est Régis Debray et toute la médiologie, donc qui a fait un petit livre qui s'appelle Vie et mort des images, et qui est quelqu'un qui me donne, on va dire, un peu la structure pour penser à ce dont je vais vous parler ce soir. Par exemple, il dit plusieurs choses, Debray. Il dit, voilà, les images, imago, le terme latin, ça veut dire, c'est employé par les latins pour les visages des morts. Hein, on fait des masques de cire pour garder le visage des ancêtres et on les expose. Et donc, vous voyez, dans l'imago, il y a tout de suite le rapport à la mort et au visage. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on va retrouver. Ce qu'il dit aussi, Régis Debray, pour les images, c'est qu'il pense, on va dire, au moins deux grandes directions. Une première direction où l'image, elle est une présence, on va dire. Et là, ça va être toute la première partie de ce dont je vais vous parler, on va dire. Et cette image-présence, elle s'oppose pour lui à une image qui est représentation. Alors, vous voyez, pour l'art, par exemple, de temps en temps, moi, j'aime bien penser que l'art est assez récent et que c'est peut-être déjà terminé, cette période-là, si j'exagère un peu, on va dire. Parce que l'art, tel qu'on le connaît, qu'on le pratique, qu'on le pense communément, c'est vraiment, ça apparaît plutôt avec la Renaissance, en fait. Tout d'un coup, la figure de l'artiste apparaît, le souci du beau apparaît. Hein, avant, on a quelque chose, d'ailleurs, justement, on va voir sans arrêt, qui est du côté de la religion, mais ce n'est pas forcément de l'art. Hein, c'est penser certainement différemment, en tout cas. Hein, et l'image de tout ce qui va correspondre à toute l'image religieuse, par exemple, elle n'est pas faite dans un premier moment pour être belle, mais elle est faite plutôt pour être agissante. Et des statuettes primitives, en passant par les Christes, Pantocrators, toutes ces images-là dans les basiliques, on a des images qui sont pensées comme des images plutôt agissantes, comme des présences. Hein. Donc vous voyez que l'art, quand il commence à penser l'image comme un objet de contemplation, il va s'accaparer des images d'avant, si je puis dire, mais qui ne sont pas pensées forcément dans un souci esthétique, on va dire. Alors, qu'est-ce que... On va dire ça pour commencer. Donc, dans une première partie, on va dire, je vais essayer de m'intéresser à tout ce qui est art primitif et religion primitive, et donc autour de la figure du chaman, on va dire quelque chose comme ça. Et puis, donc on va dire là, je suis du côté de... ou l'animisme, ou le polythéisme. Et puis, dans un second moment, je vais essayer de m'intéresser un peu plus précisément à la figure du dieu chrétien, voilà, hein, celui qui fait notre... Enfin, moi, en tout cas, ma culture, on va dire quelque chose comme ça. Et donc, essayer de voir comment, de l'an zéro jusqu'au 19e siècle, se développe une image d'un dieu, hein, le dieu chrétien, et puis essayer de voir cette évolution. Alors, donc là, je vous ai mis une petite image de on va dire d'une chamane, d'Aïr, japonaise, hein, du 20e siècle, et elle est sous une cascade. Je vous reparlerai de ça après. Pour commencer, quelques images donc des grottes. Alors, essayer de penser cet art préhistorique. Ce qui est intéressant, enfin, peut-être, avec cet art-là, c'est que c'est pensé comme l'origine de l'art, ce moment-là. Est-ce que les hommes qui descendaient dans les grottes et qui faisaient des peintures, qui peignaient les parois, est-ce qu'ils faisaient de l'art? Certainement pas. Hein. On ne peut pas savoir ce qu'ils faisaient exactement. On va dire qu'on est plus du côté de la magie. Mais il se met en place à ce moment-là toute une série de choses, on va dire, qui pour moi sont comme des matrices de ce qui va se penser après. Alors la première chose qui va se penser pour moi, donc des origines jusqu'au XXe siècle, je parle de l'art contemporain, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est toutes les figures de chaman et les figures animales. En fait, on pourrait peut-être dire que les dieux, les divinités, les esprits, tous ces termes-là sont relativement synonymes, qui apparaissent dans ces religions primitives, c'est des figures animales, hein, essentiellement figures animales. Alors on trouve ça dans les grottes, puisque hein, les grottes, donc Lascaux, diverses, les figures qui apparaissent le plus sont des figures de bison, de mammouth, beaucoup de cheval, hein, et puis il y a des cerfs aussi, mais on est toujours du côté de l'animal. Alors il y a des gens qui sont intéressés un peu à ça dans les années 80-90 et qui ont essayé de repenser cette première manifestation artistique à travers la figure du chaman. Alors, il faut penser que cet art-là, on va garder ces termes-là, est un art, pour moi, qui n'a de primitif vraiment que le nom. C'est assez complexe, en fait, comme pratique. Parce qu'il faut trouver la grotte, déjà. Il faut descendre dans la grotte. Il faut s'éclairer. Donc, en fait, on sait qu'ils ont qu'ils fabriquent des sortes de bougies, c'est des cupules avec un peu de graisse animale, un peu d'étoupe animale, et ça fait des bougies qui éclairent extrêmement bien. Donc à Lascaux, on a retrouvé des dizaines de ces bougies primitives. Et il y a une chose aussi très intéressante, je trouve, c'est qu'il y a un rapport, on va dire, ombre-lumière, qui aussi peut traverser tout ce qu'on peut penser du côté du divin, hein, comme métaphore, on va dire. Et donc, quand on descend dans une grotte, on échappe à l'alternance jour-nuit. Hein, on choisit une sorte de lumière, et cette lumière, c'est la lumière des bougies, et c'est une lumière qui est essentiellement vacillante, hein, puisqu'il y a toujours des courants d'air dans les grottes. Et tout ce qui est peint sur les parois utilise le relief de la paroi. Donc, quand on a la chance... C'est difficile à notre époque, en fait, d'aller dans les grottes. On est toujours sous les lumières électriques. Mais quand on a la chance d'être dans une grotte et de pouvoir être éclairé qu'avec une bougie, on peut repérer que les animaux qui sont peints sur les parois des grottes, ils bougent, en fait. hein, parce que la flamme de la bougie bouge, ils sont eux-mêmes en relief, donc on a vraiment une illusion de mouvement. Donc vous voyez, je pense qu'évidemment, ils voyaient ça, on va dire. Donc je suis presque plus du côté du cinéma dans cette pratique primitive des images. Donc, première chose. Et seconde chose, il faut penser aussi qu'on a retrouvé beaucoup de traces de... Par exemple, sur les stalactites et stalagmites, des traces de martèlement. Et puis, on peut penser qu'ils faisaient de la musique. Hein. Donc, il y a un rapport au chant assez important qui traverse alors, toutes les différentes pratiques chamaniques, qu'elles soient au Japon, qu'elles soient en Occident, ou qu'elles soient ailleurs. Hein. Donc, sans doute, il y a une pratique chamanique qui est du côté de la danse, qui est du côté du chant, et qui est du côté de la transe aussi, on va dire conscience altérée. Hein. Donc le chaman ou la communauté peut rentrer en transe et à ce moment-là avoir une perception d'autre chose, on va dire. Les autres choses, ça va être ces figures divines, entre guillemets, et c'est très très souvent des animaux. Et on peut dire peut-être aussi, alors bien sûr, là c'est... Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui se pense comme origine de l'art, on n'en sait rien du tout. Hein. On n'a pas de texte, on n'a pas de trace écrite. Dès qu'on commence à avoir de trace écrite, on peut commencer à penser quelque chose. Mais là, on n'est que dans les hypothèses. Mais on a retrouvé sur ces parois de grottes, alors d'abord, tout le rapport au relief, hein, on peut le voir dans des images comme ça, on voit bien que là, il y a un tracé qui utilise le relief. Et puis on a retrouvé aussi des parois de grottes avec énormément de traces de mains. Donc une des hypothèses, ça serait de penser que la paroi, c'est vraiment comme une interface, et donc la paroi est ce lieu de passage où on passe dans l'autre monde, on va dire. L'autre monde, celui des esprits, celui des dieux, comme on veut. Hein, il y a un rapport peut-être très tactile, on va dire, à la paroi, et... dans les pratiques, peut-être ce moment-là, ce rapport tactile pour bien marquer que la paroi, c'est celle qui va après recevoir, on va dire, les images des animaux, mais qui est aussi ce lieu de passage, donc il peut y avoir des rituels. Donc ce premier moment, on va dire, hein, il y a quelques termes, je pense, qui permettent de le comprendre. Il y a les lieux, que ce soit grotte ou que ce soit les temples, il y a toujours un lieu sanctuarisé, et puis un rapport à des rituels, on va dire, et des chants. Hein, quelque chose comme ça qui se met en place. Donc, alors, d'autres figures qui sont aussi... Donc là, je suis moins 30 000, moins 15 000, hein, je suis il y a très très longtemps. Et donc les premières statuettes, donc figures féminines, statuettes féminines, Vénus primitive, hein, on a toute une série, dont on voit là quelques-unes, qu'on retrouve dans ces différentes grottes. Donc peut-être une des premières images divines, elle est du côté des femmes, et des femmes enceintes, hein, c'est vraiment rapport déesse de fertilité, on appelle ça aussi. Donc, on va dire, pour moi, il y a une première image, en tout cas, qui serait de ce côté-là, de la de figure féminine divine, et du côté de la déesse de fertilité. Alors après, il y en a d'autres, comme, donc là, je suis en Sardaigne, voilà, d'autres figures. Je suis donc 4000, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Dans ces grottes, donc, on peut trouver des figures comme ça qui sont pensées, donc, par ceux qui réfléchit un peu à ça, comme des figures chamaniques. Hein. Le chaman, le principe, c'est quand il est en relation avec un esprit animal, cet esprit s'incarne en lui, ou il s'incarne dans l'esprit animal. Donc on retrouve des figures comme ça qui sont des animaux un peu étranges, ou d'autres figures où j'ai quelque chose de mélange entre, voilà, là c'est plutôt Chaussara, et c'est tête de gazelle et corps d'homme, on va dire. Hein, toujours ce rapport au divin qui passe par le chaman et qui passe par une incarnation ou un lien avec une figure animale. Alors, il y avait, je trouvais, dans la grotte Chauvet, donc, qui est découverte dans les années 90, on a retrouvé donc une sorte de crâne, enfin pas une sorte, un crâne d'ours sur un autel, enfin ou sur une pierre. Et vous voyez que là, cette idée de grotte comme lieu de comme sanctuaire, on va dire, avec toutes les pratiques qui peuvent être liées, et bien tout d'un coup prenait un peu son sens, parce que dans les autres endroits, soit les traces ont été effacées, soit il n'y en avait pas. Mais donc, tout d'un coup, on a vraiment un espace qui peut nous rappeler l'espace du sanctuaire qu'on va retrouver ailleurs. Et là, donc, crâne d'ours, figure animale. Voilà. Donc, pour le préhistorique... après, ça me semblait intéressant de montrer quelques images chaman, c'est en fait un terme qui apparaît au XVIIIe siècle, le chamanisme aussi. C'est ce moment des grandes explorations où on finit d'explorer la terre, si je puis dire. Et en Sibérie, donc, on retrouve des populations qui sont restés sans contact en fait avec le reste du monde, et on retrouve dans ces populations des figures de prêtres, hein, chamanes, prêtres, ça peut être équivalent, et ce terme chaman, qui s'applique aux populations sibériennes, il va devenir après un terme générique pour désigner ces personnes qui, dans la communauté, ont une figure particulière de prêtre, si vous voulez, ça, on peut le définir aussi comme ça, sorcier. Hein. C'est pas tout à fait le même sens, bien sûr, mais... Et donc, ça me semblait intéressant de montrer un peu de l'art esquimau, paléo-esquimau, hein, antarctique. Alors, il y a beaucoup des pratiques aussi qui sont restées du côté... de la transe, du contact avec les animaux. Alors là, c'est des masques, on va dire, qui sont utilisés par les figures de chamanes, mis. Et puis, il y a donc des sortes de petites cérémonies, on va dire. Alors là, c'est des photos des années 30, 40. Et on voit donc ces tambours. Hein. Donc l'idée de rentrer en transe aussi, c'est très très lié à la musique, c'est-à-dire... vraiment sont très répétitifs, et vraiment conscience atterrée, vision, hein, et passage dans l'autre monde, et contact avec l'autre monde, et puis ça a des vertus évidemment pour la communauté, guérison, etc. Hein. Donc il peut y avoir un usage individuel, on va dire, il y a des petites histoires où, dans le monde arctique, ça donne vélocité ou acuité visuelle, par exemple. Alors les masques, voilà, l'utilisation de masques. Voilà, des masques, d'autres masques, et puis on devine les cérémonies. Alors, c'est voilà un exemple de ces masques. Alors, j'en parlerai la semaine prochaine. Évidemment, je trouve que... Alors, c'est des traditions qui se perdent vraiment dans la nuit des temps. Hein. Je sais pas, il y a 7000 ans, quelque chose comme ça. Et on voit qu'on a des pratiques, enfin, des constructions de masques qui sont absolument... qui peuvent être pensées comme très contemporaines. Hein. Vraiment comme, je veux dire, je ne suis pas très loin de ce qui se passera d'ailleurs, j'en parlerai au début du XXe siècle, hein, des constructions dadaïstes ou surréalistes, hein, on peut vraiment avoir ça donc, dans ces masques-là. Alors après, des petits objets, alors c'est des objets retrouvés sur les sites ou parfois dans les tombes de chamans, donc figure d'ours, hein, donc ivoire, avec les striures sur le corps qui peuvent rester un peu énigmatiques, peut-être squelette ou bien reste de vision. Donc là, c'est c'est des petites sculptures qui étaient utilisées par le chaman, hein, puisque le principe du chaman, c'est aussi qu'il se vêt de masques, de costumes, et les dents, ça se met dans la bouche, en fait, hein, c'est des dents de chaman, voilà. Donc, et qui peuvent participer, on va dire, à ce travail dans la transe de métamorphose, entre guillemets. Et puis, voilà d'autres images, la petite Belette. Et puis, bébé Morse. Et juste ça, parce que c'est la culture sibérienne. Hein, donc on voit aussi qu'il y a de grands échanges entre ces cultures, où c'est les mêmes images animalières, dans ce cas-là, qu'on va retrouver. Hein, ça, je n'ai pas dit aussi, mais pour tout ce qui est préhistorique, c'est vraiment aussi très très frappant, à des centaines de kilomètres. Alors, le préhistorique, c'est beaucoup la France et l'Espagne, hein, c'est l'endroit qui ont été fouillés, on peut penser qu'il y en a bien d'autres et bien ailleurs, mais il y a vraiment des images qui se maintiennent. Donc, les Vénus primitives, les figures animales, et puis aussi, par exemple, là dans cette partie plus culture sibérienne, cette figure de la loutre qu'on retrouve dans d'autres endroits. La troisième chose dont je pensais pouvoir parler dans ce... Alors, oui, je vais peut-être montrer ça aussi. Donc, des sortes de petits objets où il y a tête de chaman et figure de faucon. Hein, vous voyez, pour le côté à la fois figure animalière et anthropomorphe, on va dire. Donc, la troisième chose, c'était donc les... parler un peu du Shinto. Alors voilà Nakai Shigeno, qui est donc une taille japonaise, sous la cascade, qui est le lieu pour elle de on peut appeler ça la transe et de l'apparition des divinités. Alors le Shinto, et je vous montre aussi tout de suite peut-être une autre figure d'elle en action, on va dire, hein. Donc, chant, et puis au moment où elle entre en transe, et elle va commencer à dire des choses qui sont notées par les gens qui l'accompagnent. Donc, les sanctuaires Shinto, ce qui est peut-être intéressant avec le shintoïsme, c'est que j'ai une pratique très ancienne. Alors, elle n'est pas occidentale aussi, hein, c'est le Japon, bien sûr, et c'est pré-bouddhique aussi, vous voyez. Donc, il y a vraiment, c'est toujours intéressant quand on a comme ça quelque chose qui se met en place, qui n'est pas lié à tout l'Occident, et qui n'est pas lié non plus au bouddhisme. C'est quelque chose qui se passe avant, donc quelque chose très très ancienne. Shinto, il y a le culte des divinités, hein, on traduit littéralement. Et donc, on retrouve absolument, enfin, sans doute je simplifie beaucoup en fait, hein, mais on retrouve les mêmes choses quand même. Donc, levé, par exemple, il y a une déesse Inari, on est du côté alors, des statuettes, qui sont des statuettes de protection, et avec un messager particulier, qui est dans ce cas-là le renard. Donc le renard est une figure qu'on retrouve énormément dans tous les sanctuaires Shinto. Donc petit sanctuaire, offrande, hein, j'offre du saké. Et puis le Shinto, on va dire, il a peut-être la particularité d'être en lien, pour ce qui est du divin, avec le cosmos de façon très simple, la nature. Donc un arbre, une rivière, une source, un rocher sont les lieux où se manifeste l'esprit divin, hein, on peut dire ça comme ça. Et puis le rite Shinto, donc le Shinto est extrêmement pratiqué au Japon, hein, de façon très très contemporaine, donc au petit sanctuaire avec figure de renard. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les tori. Alors voilà une succession de tori. Je vous en montre d'autres peut-être. Voilà aussi. Pour Donc c'est des portes, hein, et on retrouve cette idée de passage, dont je parlais un peu à propos des parois. Donc le lieu sacré est marqué par ce passage, par le tori. Hein, donc dans tous les sanctuaires shinto, il y a toujours un tori, et on quitte le monde quotidien pour rentrer dans le monde du sanctuaire, et on passe par un tori. Et il y a aussi, dans ces lieux shinto, des séries, vous avez vu, de dizaines, centaines de tori, hein, qui sont construits très très régulièrement, hein, ça s'ajoute jusqu'à faire des sortes de couloirs. Et donc voilà d'autres renards, petits tori, on devine aussi par moments donc des pierres. Vous voyez donc le rocher derrière, rocher et gravé, avec aussi petites cordes qui marquent aussi le côté particulier, on va dire, du rocher. Et je vais vous en mettre d'autres. Voilà un rocher, hein, alors par petite corde et puis petit papier découpé, c'est des choses qu'on trouve très souvent. Voilà un sanctuaire shinto, hein, dans une ville. Donc on retrouve aussi à peu près toujours le même type d'architecture. Et alors là, voilà une chose aussi. Donc le rituel, c'est un rituel de purification quand on rentre dans les sanctuaires shinto. Donc il y a toujours de l'eau et puis une sorte de petite louche pour se laver la bouche et les mains. Et puis, il y a donc des petits grelots, hein, qui sont ici, et qu'on retrouve souvent. Donc le principe, quand on est dans le sanctuaire Shinto, c'est, alors je ne vais pas prononcer ce mot-là, le mot kami, donc c'est vraiment, je ne l'ai pas dit encore, non. Parce que c'est vraiment le nom, le kami, c'est le nom des dieux pour le shintoïsme. Hein. Donc, kami, c'est les dieux de la terre, ils viennent de la terre. Alors, c'est peut-être un peu rapide de parler de ça, mais de faire ce lien. Mais en même temps, voilà, on est dans une culture orientale, et les dieux, ils viennent de la terre, alors que nous, nos dieux, ils viennent du ciel, plutôt, hein, si on veut dire dans l'Occident. Donc, kami, dieu de la terre. Et donc, pour appeler le kami, je frappe dans mes mains, hein, et puis j'agite le grelot, hein, la petite corde. C'est une façon d'appeler le kami. Hein. C'est donc des rituels qu'on va pratiquer sans arrêt dans les sanctuaires shinto. Et alors ce rapport à la nature, hein, bon, qui est aussi toute une tradition japonaise, on le voit chez Suzuki, parce que là on voit bien que, donc c'est un petit sanctuaire dans une île, je veux dire, il y a des cordes qui sont mises autour de deux arbres, donc il est pensé que cet endroit-là, autour des deux arbres, est un lieu où peut apparaître un dieu, hein, un esprit. Et donc j'agite le grelot. Et donc vous voyez, rocher, voilà, rocher ou arbre ou source, bien sûr, sont des lieux d'apparition, on va dire, où le kami peut se manifester. Le kami se manifeste par l'intermédiaire d'un dai, cette Shigeno dont je vous parlais. Et donc elle raconte dans un petit livre, moi j'ai trouvé incroyable dans un sens. Hein, c'est des histoires. Donc je suis au XXe siècle, hein, c'est vraiment début du XXe que ça se passe. Et donc, elle commence par perdre la vue, déjà, c'est un peu étrange. Et après, elle va rentrer donc en contact avec les kami. Et alors, elle va sous une cascade, c'est la photo que je montrais tout à l'heure. Et elle y va été comme hiver. Hein. Donc, je veux dire, elle va en plein hiver. L'eau est glacée, et ce que décrivent les gens, c'est que plutôt il y a de la vapeur qui se dégage de son corps. Donc elle entre en transe, et elle, alors son kami, c'est un renard blanc, quoi. Donc elle raconte comment la première fois, après qu'elle soit devenue aveugle, son souci, c'est de retrouver la vue, hein, en fait, et qu'elle va retrouver en partie, mais pas vraiment. Et donc, elle est sous la cascade, et la cascade lui tombe donc sur, sur la nuque, et elle voit une sorte d'ombre passer, puis après elle va voir vraiment le renard blanc. Évidemment, il y a tout un tas de choses, c'est que ce monde autre, on va dire, ce monde des dieux, est un monde plein de ruses. Hein, c'est-à-dire que il y a des renards qui ne sont pas des vrais renards, enfin qui ne sont pas des vrais Camis, si je veux dire, pas vraie incarnation de Camis. Hein, donc elle raconte tout ça, c'est parfois assez drôle. Et puis donc voilà, et donc ça va, donc elle va aller dans son petit village sous sa cascade, et puis elle va avoir, alors les oracles sont divers et variés, et à un moment, en général, elle dit quelque chose, elle ne se souvient de rien de ce qu'elle dit, mais il y a des gens qui notent, et c'est comme ça qu'elle va trouver un sanctuaire près d'Osaka, où après elle va être donc la prêtresse, on va dire, de ce sanctuaire jusqu'à sa mort. Donc pour le Shinto, qu'est-ce que j'aurais oublié? Oui, c'est lié aux esprits des ancêtres, bien sûr. On retrouve un culte des ancêtres souvent présent. Et puis voilà. Et alors dernière chose. Il m'a semblé aussi intéressant, pour terminer donc, sous tout cet aspect des figures du divin liées au chamanisme, faire très vague, de parler du vaudou. Alors là, c'est une collection d'une femme qui s'appelle Marianne Lehmann, qui habitait en Haïti depuis très très longtemps, et puis donc elle a fait une exposition, et donc il y a un catalogue, et donc elle est collectionneuse d'objets vaudou. Alors tous ces objets sont spécialement la secte Bizango. Alors c'est toujours je sens que je dis absolument pas tout parce que c'est aussi quelque chose de très complexe, mais ces sanctuaires, hein, ils ont comme, alors je reviens à la grotte quand même, c'est-à-dire bon, les Grecs partout quoi, c'est un espace clos où il y a une statuette, et quand même c'est un espace où on ne voit pas, hein, c'est, il y a du secret dans tout ça. Je veux dire que j'aille en Afrique dans les temples grecs, les églises, d'une façon, hein. Il y a un rapport comme ça au visible qui est du côté du masque. On ferme un endroit, et dans cet endroit va se manifester l'esprit ou le dieu, où il va y avoir une statuette divine, mais il y a un côté comme ça, tout le monde ne peut pas le voir, et je suis dans le sombre. Alors pour le vaudou, ces statuettes, enfin figurines, figures que l'on voit, elles ont donc été utilisées dans les sanctuaires bizango, absolument inaccessibles, bien sûr, et ensuite, il y a un moment alors, où on rechange figure. Donc, il y a une opération de désacralisation de la statuette. Et cette Marianne Lehmann était assez connue à Haïti. Donc, elle récupérait, on va dire, elle était connue. Donc, ce que nous voyons est une statuette déchargée, un peu, si je puis dire, de choses. Alors, il y a beaucoup de miroirs. Ça permet de revenir sur une chose. Dans le Shinto aussi, il y a donc la déesse mère, on va dire, une de ses manifestations, c'est le miroir. Hein. Donc il y a aussi beaucoup de miroirs dans le sanctuaire Shinto. Et dans le vaudou, mais on retrouve ça ailleurs, donc les miroirs, c'est la même chose, passage. Hein. C'est le moment où on passe dans l'autre monde, ou bien l'esprit va pouvoir se manifester. Hein. Le miroir est très très utilisé. Alors aussi, je suis vaudou, c'est-à-dire ce vaudou, donc il vient d'Afrique, hein, évidemment, et il a été aussi, alors pour les idées de communauté, par exemple, qui sont toujours en œuvre dans ça, c'est très lié à l'esclavage. Hein, vous voyez peut-être, on devine ici un fer et des chaînes, hein, et c'est une chose, et puis il est tortillé. Et donc c'est souvent les esclaves qui s'enfuyaient des plantations, les esclaves marrons, qui ont développé tous ces cultes vaudous. Hein, donc il y a aussi un lien assez fort, hein, c'est-à-dire que la lutte contre l'esclavage va passer par ces sectes vaudous. Alors ça donne d'autres figures comme ça, donc qui est os, mort, miroir, hein. Et puis voilà, des personnages ailés aussi. Pour moi, on est dans quelque chose, là, assez sombre, hein, quand même. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a de la mort, là, vraiment. D'ailleurs, donc les Bizango, à un moment, ont été accusés de participer à des meurtres, hein, aussi, hein, politiques, vous voyez, utilisés pour des choses politiques. voilà d'autres figures toujours mises en cours. Et puis, oui, alors, voilà, le petit visage de près, hein, oui, je pense au rapport au miroir, hein, donc cette façon, quand je disais très rapidement au début, les images qui voient plus qu'elles sont vues, qui agissent, hein, c'est-à-dire quand on est face à ça, ça vous regarde, autant que vous regardez, hein, d'ailleurs, c'est le jeu du miroir. Et puis aussi, il y a des fauteuils de traitement, dit le petit notice, donc, et puis les miroirs hein, qui sont utilisés aussi pour dans toutes ces pratiques. Voilà. Et juste peut-être une. Alors, les hôtels, parce que hôtel vaudou, aussi ça c'est rigolo, c'est très syncrétique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai de l'Afrique, on voit bien des figures de vierges. Hein, c'est connu aussi une réutilisation de toutes les figures du divin. Là, vraiment assez forte, jusqu'à Anastasia Kinski, qui est aussi en photo là. Et donc, et puis là, c'est donc la collection de Marianne Lehmann quand elle est exposée, dont je trouve intéressant aussi parce que ça donne un peu cette idée pour moi, on va revoir un peu, mais qui peut traverser tout ce rapport aux religions primitives. C'est des choses qui sont liées à des pratiques. Et nous, ce soir, on regarde des photos et on fait une histoire, on va dire, de ces images. On est dans un rapport, entre guillemets, à l'art, à l'esthétique, je ne sais pas trop quoi. Mais là, vous voyez, ça a changé, quoi. Hein. Ça se transporte dans des caisses, c'est exposé dans les musées. Hein, mais on peut dire que, si j'exagère un peu, jusqu'au XVe siècle, toutes les images ne sont pas faites pour les musées. D'ailleurs, les musées n'existent pas, justement. Hein. On les trouve dans les églises, dans les temples, etc. Hein, ça donne peut-être un peu une idée. Et voilà, d'autres figures. Bon, avec un petit etc. Voilà, ça, je n'ai pas pensé à le montrer, mais je le montre rapidement. C'est un sanctuaire Shinto. On retrouve les cordes, hein, les grelots, et puis donc pour l'appel des canines. Et puis, voilà. Donc voilà, c'était pour moi le premier moment. Alors, c'est un peu matriciel, je trouve que ça donne pas mal de notions qu'on va retrouver. Et là maintenant, je vais rentrer plutôt dans alors les monothéismes. Je vais parler rapidement juif, islam et surtout chrétien qui m'intéresse. Mais donc la semaine prochaine, le XXe siècle, je vais avoir l'occasion de revenir tout ça puisque le XXe siècle c'est aussi un grand retour, on va dire, de l'art primitif dans l'art moderne. Alors donc le monothéisme. Regarde l'heure. Donc, dans un sens, on peut dire peut-être que, vous voyez, dans ce premier moment hors temps, hein, vous voyez, c'est avant, après, je trouve ça intéressant aussi, c'est préhistorique, c'est hors histoire, hein, la question des dieux, de figures de dieux, se pose assez peu, hein, il n'y a pas de problème. Les dieux apparaissent et ils prennent figure de quelque chose. Alors, il y a le moment, donc, monothéisme, donc, juif, judaïsme, qui s'inscrit en rupture par rapport à ça, où, donc, on parle d'aniconisme, où vraiment, Dieu est justement ce qui ne se représente pas, celui dont on ne peut pas avoir d'image. Vous voyez ? Alors, là, on peut dire qu'il y a peut-être une vraie rupture hein, qui se passe à part dans l'histoire, entre guillemets. Même si on retrouve dans l'hindouisme des dieux aussi qui ne se représentent pas, et puis il y a le zoroastrisme aussi, qui est un monothéisme sans image. Mais enfin, quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe là. Donc, c'est le décalogue. Tu ne feras pas d'image, etc., ni de ce qui est en haut, ni de ce qui est en bas, etc. Hein. Donc, il y a un interdit immédiat des images dans les, les commandements de la loi, hein, dans les 10 commandements de la loi. Donc il y a quelque chose de très très fort qui se passe là et qui va vraiment, vous voyez, qui va traverser donc toute l'histoire. Alors c'est assez en même temps étrange et paradoxal. Donc vraiment, le judaïsme est fondateur, on va dire, hein, Ancien Testament, et même Islam. Hein, il y a vraiment, et cette fondation de ce monothéisme est vraiment ce. Propose de ne pas faire d'image, de penser que Dieu ne se représente pas. Alors, on voit dans tout l'Ancien Testament, il y a des métaphores littéraires qui sont du côté de l'anthropomorphisme, qui humanisent, on veut dire, Dieu, mais quand même, Dieu apparaît dans la nuée, donc une nuée, hein, c'est du nuage, hein, c'est difficile de faire une image de ça, buisson ardent, et l'idée c'est que on peut pas voir Dieu sinon on meurt. Enfin, c'est il y a quelque chose d'impossible, hein, de pas pensable, on va dire, ou trop, ou d'insupportable, on va dire. L'homme ne peut pas supporter, entre guillemets, cette vision-là. Alors, donc là quand même, alors vous voyez, donc interdit cultuel, hein, c'est-à-dire, faut penser ça, l'interdiction des images, c'est parce qu'il faut pas adorer des images. Et je suis bien dans une position aussi contre tous les dieux païens, sur lesquels je passe un peu vite. Donc on peut peut-être penser, c'est pour moi qui le dis, hein, c'est ce que je peux lire, que cette fonction aussi de Dieu dont on ne peut pas faire d'image est une façon pour le judaïsme de lutter contre les autres pratiques religieuses qui sont autour de lui, qui sont du côté des images, avec la fameuse rechute du veau d'or, hein, évidemment. Rechute du veau d'or, hein, dans l'histoire, c'est 3000 morts, hein, parce que, je veux dire, donc c'est des choses très très qui sont assez importantes, on va dire. Alors, cela dit, le judaïsme fait des images. Alors là, c'est des fresques dans une synagogue en Syrie, et c'est rigolo parce qu'il y a donc une image de bain, vous voyez, hein, qui est comme une façon de figurer Dieu. Hein, donc, je suis un peu limite, là, on va dire. C'est pas vraiment Dieu, mais quand même une image. Bon, c'est une des rares images. Alors, mais les synagogues, cette synagogue, on voit toute une série de fresques, hein, on peut dire. Voilà encore une. Donc, je suis. 224-225. Alors on trouve après dans le Talmud, dans des manuscrits au Talmud, alors micrographies, vous voyez, c'est pour donc le texte hébraïque dessine en même temps une porte, vous voyez. Et puis on retrouve aussi alors des figures animales, c'est évidemment, hein, ça peut faire penser tout d'un coup. Là c'est ce moment de l'hospitalité d'Abraham. Abraham reçoit 3 personnes et il a l'impression de parler à un seul en même temps, hein, donc figure divine. La Trinité, on va y revenir. Et là, dans le manuscrit Talmud, on a donc 3 figures animales, hein, pour aussi, on ne peut pas figurer Dieu, donc on figure Dieu sous forme animale. Il y a des sortes de liens qui peuvent se faire. Et là, qu'est-ce que... Je reviens sur ça. Alors, islam. Donc, première chose, hein, dans ces monothéismes, quand même, dans l'ensemble, judaïsme, il n'y a pas d'image. Et alors, l'islam, pas du tout non plus. Hein. Alors, c'est marrant parce que dans le Coran, il n'y a pas du tout d'interdiction. Toutes les interdictions se retrouvent plus dans les hadiths, qui sont des commentaires. Mais quand même, on peut dire que là, j'ai une religion qui va vraiment pas du tout favoriser les images. Même si on voit bien que c'est pareil, là, je suis obligé d'être synthétique, on va dire, ouais, hein, je donne des crans, mais je veux dire, entre les pratiques en Iran, où il y a la figure de l'Ayatollah Khomeini partout, hein, vous voyez, donc là, vraiment favoriser, les images ne sont pas exclues, on va dire, et puis si je suis en Arabie Saoudite, alors là, au contraire, les images sont enlevées, même des timbres et tout ça. Et donc il y a des grandes différences dans ce monde musulman. Mais quand même, globalement, on peut dire que il n'y a pas d'image de Dieu. Et alors, c'est, il n'y a pas dans le texte, il n'y a pas d'interdiction marquée particulière, mais c'est comme une évidence, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est évident que Dieu ne peut pas être figuré. Alors, il y a là, par exemple, Donc voilà un manuscrit où on trouve à droite les noms de Dieu et à gauche les noms de Mahomet. Hein, vous voyez, donc on peut, donc évidemment, dans toutes les mosquées, on va retrouver aussi ces écritures qui deviennent stylisées et qui vont couvrir les mosquées. Hein, donc il y a bien un travail, alors je ne sais pas si on appelle ça d'image, pas de figure en tout cas, hein, un travail sur les supports, mais vous voyez, je suis dans la graphie plutôt. On peut dire ça comme ça, c'est ce qui va être développé dans mon musulman. Les miniatures se développeront aussi comme l'image, mais du côté du culte, il n'y a pas d'image. Interdiction donc extrêmement forte. Et il y a une autre chose aussi, oui, c'est que l'activité créatrice, qui serait du côté de la création d'image, elle est blasphématoire, facilement, parce que Dieu est créateur, mais l'homme n'est pas créateur. Donc il y a aussi sans doute quelque chose comme ça dans cette interdiction des images. Alors, cela dit, il y a... Alors voilà par exemple un bas-relief, on retrouve cette graphie du nom de Dieu. Et puis, ça c'est un manuscrit, 16e siècle, un manuscrit turc, où le prophète, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, révèle au prophète la 8e sourate coranique. Alors, en fait, c'est une chose qu'on va retrouver, le visage donc, du prophète est masqué par un voile. Vous voyez, donc j'ai bien une sorte de mise en scène, on va dire, du message divin, du prophète, de l'archange Gabriel, mais son visage, j'ai un voile. Hein, on retrouve ce souci de ne pas figurer, on va dire, de ne pas faire d'image. La Mykonis, c'est beaucoup du coup des statues, et c'est pensé dans les textes ce qui fait ombre aussi. Hein, il y a une petite différence entre ce qui fait ombre, la statuette. Et puis la peinture. Mais bon, voilà, on peut dire ça. Ah oui, c'est une histoire aussi assez intéressante. Mahomet, quand il va à la Mecque et qu'il va dans la Kaaba, en fait, l'intérieur est entièrement décoré de fresques. Donc il fait effacer les fresques, mais il en garde un pilier sur lequel il y a Jésus et Marie. Hein. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça donne peut-être une mesure de quelque chose, cette histoire-là. Anconisme, donc refus, mais en même temps, le prophète, quand il va à Kaaba et qu'il voit ces fresques-là, ils effacent pas toutes. Hein, figure de Jésus, figure de Marie peuvent rester sur un pilier pour le rapport aux images. Et voilà. Alors, ensuite, donc, je vais terminer sur ça. Je dis terminer. C'est donc 18 siècles tout d'un coup. Si vous êtes patient. La chrétienté, il va se passer plein de choses. Donc, la figure du Christ. Évidemment, toute l'histoire, si je puis dire, qui va faire basculer les choses, je trouve, à la fois par rapport aux cultures primitives et à la fois par rapport au judaïsme et au monde de l'islam, c'est le Christ. C'est-à-dire Dieu s'incarne dans un homme. Hein. Alors tout d'un coup, la figure du Christ est la figure de Dieu. Hein, voyez. Donc il y a cette ambiguïté, une possibilité qui va absolument permettre, voyez, pendant les trois premiers siècles du christianisme, on n'a pas d'image du tout, hein, vraiment. Mais après, les images arrivent. Alors il y aura toujours ce jeu, qui va traverser vraiment toute l'histoire de la chrétienté, c'est-à-dire les images, donc a priori elles sont condamnables. Hein, parce que je suis du côté, parce que je ne veux pas être vers le paganisme et adorer les images, mais en même temps, il y a le Christ, et donc faire une figure du Christ est possible. Mais vous voyez, cette figure du Christ que je peux faire apparaître, elle ne doit pas être adorée. Hein. En fait, une des grandes choses qui va se passer, c'est que ces images vont se développer parce qu'elles sont pensées de façon pédagogique, on va dire. C'est-à-dire que face à des fidèles qui ne savent pas lire, hein, des images peuvent leur permettre d'appréhender, on va dire, le message christique. Donc c'était vraiment des vertus pédagogiques. Et donc la crise des icônes, par exemple, au 8e siècle, elle va rendre compte de ça, c'est-à-dire qu'on va accepter les images parce qu'elles sont du côté d'un enseignement possible. Donc un petit parcours. Alors voilà, donc des figures du Christ. Hein. Là, maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est juste
Dieu
chrétien, le Christ. Alors il y a aussi ce mystère de la Trinité, hein, évidemment, qui fait que Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on va voir se développer des figures du Père, des figures du Fils et des figures du Saint-Esprit, la colombe, hein, tout ça. Alors ça, par exemple, là je suis, mon pasteur, 3e siècle, catacombe. Hein, donc voilà, berger, Christ berger. Le Christ enseignant. Hein, vous voyez qu'on va voir, parce que je pense qu'on a tous des images de Dieu, des images du Christ. Hein, donc vous voyez, jeune homme, imberbe. Hein, le baptême du Christ. Alors tout ça, c'est donc le paléo-chrétien, on va dire, 3e siècle, 4e siècle. Alors voilà ce qui commence, le Christ, des figures du Christ en majesté. Je suis toujours 4e siècle, 3e, 4e siècle, et donc catacombe. Hein. Alors, il y a ce moment où se développent les basiliques, on va dire, et donc dans les absides, ces figures de Christ en majesté. Hein. Donc voilà un exemple. C'est Rome, donc c'est une mosaïque d'abside. Ah oui, c'est ce que j'aime bien dans Debray aussi, c'est que Médiologie, il analyse les supports. Vous voyez que on va dire que aussi on peut faire une histoire où donc on commence dans les grottes. Hein, après, on est dans les chapelles, les églises, les fresques sur les murs. Après, on travaille sur bois. C'est déjà un peu plus léger, ça se déplace. Et puis, grand basculement, c'est comment se travailler toile sur châssis. Et ça continue jusqu'à nos jours. Et puis maintenant, on est écran d'ordinateur, on va dire, ou vidéo. Vous voyez, le support aussi des images, on va dire, va du plus lourd au plus léger. Hein, et qu'on peut aussi, et là, sous ça, je pense que vous pouvez remarquer ça aussi, hein, et là, on le voit bien. Donc, je suis la mosaïque, c'est lourd. Je suis dans une basilique, hein, et je ne suis pas encore dans la peinture, entre guillemets, sur toile de chevalet. Donc voilà, Christ en majesté. Voilà aussi Ravel, Christ, figure du Christ. Alors on appelle ça christomorphisme, hein, c'est-à-dire voilà, c'est la figure du Christ va être une figure de Dieu qui traverse absolument toute la chrétienté, les anges à côté. Voilà aussi pour donner l'idée du rapport à l'espace. Hein, vous voyez, tout à l'heure quand j'essayais de faire apparaître cette idée de sanctuaire, voilà, on y est, un autre genre de sanctuaire, on va dire. Alors, il y a des figures aussi intéressantes comme celle-là, elle s'appelle figure Emitasi, c'est-à-dire le trône, ça veut dire trône, et donc qu'on retrouve dans tout cet art byzantin, où on a des figures du trône qui manifestent la présence divine. Hein. Alors, on n'a pas donc ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils sur le trône, mais on a le trône, et puis voilà, là, il y a une croix, hein, qui est sur le trône, mais c'est une figure aussi divine, en tout cas, de représentation de Dieu, qui va traverser aussi toute une partie de la chrétienté, cette figure-là. Alors, les icônes, voilà, première icône, là, c'est un peu plus loin. Donc, la querelle des icônes au 8e siècle va opposer donc les iconoclastes aux iconodules, ceux qui sont pour, ça dure plusieurs siècles, et on va dire donc il y a vraiment ceux qui sont contre ça. Alors surtout c'est les icônes, c'est des images qu'on peut retrouver ailleurs et avant, on va dire, et après, mais c'est le rapport à ces images-là qui va être en question, hein, le rapport de vénération. Donc il y a des tas de textes compliqués, des tas d'enjeux qui vont penser d'ailleurs à un moment que l'icône est du côté de l'intercession, quoi, vous voyez, mais quand même, c'est quand même un objet qui est quand même sacré. Donc il va y avoir tout un enjeu autour de ça, pour ou contre, et la résolution, c'est qu'on va être pour, finalement. Hein. Mais il y a tout un moment où des icônes seront détruites. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc, Christ bénissant. Alors là, c'est une autre icône, c'est l'image de la Sainte Face. C'est un nom infernal à prononcer. Akeiropoiet, les images. Je le fais une fois, je ne ferai pas deux. C'est image faite de la main de l'homme. C'est le sueur de Turin. Hein. Donc c'est vrai, dans les figures divines, il y a aussi ça, c'est-à-dire cette idée que le linceul du Christ, donc son corps se sera imprimé sur ce linceul, le Véronique qui essuie le visage du Christ au moment de son calvaire, son visage se sera déposé. Donc il y a vraiment toute une tradition, donc 6e siècle, 7e siècle, 8e siècle, puis qui persévère après, bien sûr, parce que ça, jusqu'aux sphères de Turin, où il y a une image divine, qui est l'image du Christ, mais une image qui n'est pas faite par la main de l'homme. Elle est vraiment sacrée. Hein. Et donc, peut-être, il y a un enjeu aussi un peu militaire, ça sert de drapeau, et ça favoriserait l'ardeur au combat. Hein. Mais en tout cas, alors là, une icône de la Sainte Face, hein, la Sainte Face, c'est vraiment une image de Dieu qui n'est pas faite par la main de l'homme, visage du Christ, mais ce n'est pas peint. Hein. C'est, ça s'est imprimé, si je veux dire, sorte d'empreinte comme ça, et c'est, je suis vraiment dans l'image divine, mais faite divinement, ça j'aurais pu dire aussi. Hein. Voilà d'autres images de Christ, baptême. Donc là, je suis vraiment époque romane, Pantocrator. Vous voyez, stylisation des traits. Et ce qu'on va voir arriver, c'est une humanisation, on va dire, des traits du Christ. Hein. Donc vous voyez là, figure de Dieu, je suis dans la stylisation, je suis dans le côté hiératique, on va dire. Hein, aussi, ces figures-là, vitrail. Alors, il y a aussi une figure qui va arriver très, très souvent, c'est ce qu'on appelle les trônes de grâce. Donc j'ai le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Avec toujours, alors ça, dans beaucoup de peintures, beaucoup de miniatures, donc le Père derrière et le Christ en croix devant, et puis la colombe entre les deux. Allez, vous avez vu les deux bouts de l'aile qui touchent la bouche du Père et du Fils, la figure de la Trinité aussi. Alors, non, ça c'est peut-être... Enfin, je ne vais peut-être pas montrer ça tout de suite... d'autres figures aussi, des figures triatées, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le nom échappe, triatrique, un truc comme ça, bon, ça va, j'en trouvais tout à l'heure. Et donc, cette idée de Dieu, Trinité, mais qu'on va représenter sur trois mêmes figures. Hein. Et c'est une chose qu'on retrouve aussi, cette figure divine, avec trois personnages à l'identique. Alors. Juste peut-être ça, donc vous voyez, icône, voilà, et puis Bellini, 15e siècle, vous voyez, alors le passage de la Renaissance, on voit bien comment, hein, si on prend ces trois figures de Christ, Raphaël, voilà, je pense qu'on a un peu, pardon, on a ce glissement, on va dire, dans les images de la figure christique, hiératique, en majesté, qui devient donc plus humain, et trop humain, je ne sais pas. Avançons, on va dire, 15e siècle. Donc, Renaissance, donc grand basculement, très global, moi je trouve, dans l'histoire de l'art. Vous voyez, je veux dire, presque jusqu'à ce moment-là, Les images sont du côté du divin, on va dire. Les images sont dans ce rapport-là, de façon variée. Et puis la Renaissance, beaucoup de choses se passent à la Renaissance. On voit bien l'humanisme, le monde aussi, l'espace conquis, la représentation du monde. Et puis on a donc la Renaissance, la perspective. Alors c'est donc cette façon tout d'un coup qu'on va avoir de représenter un espace euclidien, de travailler illusionniste, de penser point de fuite, point de vue, ligne d'horizon, tout ce qui n'existe pas hein, dans tout ce que je vous ai montré, hein, on le sait ça. Et donc tout d'un coup, y a, on va dire... que la perspective peut être, enfin, simplifiée, exagérée, mais la perspective comme pratique artistique de représentation, elle va absolument faire de Dieu un homme, si je puis dire, hein, parce qu'elle va inscrire la figure de Dieu dans un espace humain, si je puis dire, hein, quelque chose comme ça. Donc vraiment, là, il y a un très très grand... basculement. Alors, par exemple, il y a une fresque, je trouve, Masaccio, hein, très... Alors, on la date de temps en temps, pourquoi pas. Pas trop jeune tôt, vous êtes sûr. C'est ça. Et donc, alors, voilà. Donc, c'est une peinture... qui dans l'histoire de la Renaissance, la perspective fait date. Hein. Donc, donc je retrouve le trône de grâce, hein, dans un sens, hein, parce que je trouve le Père. Alors oui, les figures du Christ, donc en jeune, en vieux, tout ça, mais là je retrouve la figure du Père, alors ça y est, on est rentré, le Père vénérable, on va dire, je retrouve la figure de la colombe, et je retrouve la figure du Christ. Alors il y a une petite chose rigolote, c'est que comme je suis dans l'espace perspectiviste, le Père soutient le Christ, mais il est sur un petit piédestal. Hein. Il ne flotte pas en l'air du tout. Hein. Donc il y a vraiment une façon, je trouve, dans cette peinture-là, on voit bien comment les figures divines, tout d'un coup, s'inscrivent, sont inscrites dans la perspective et sont soumises à cet espace perspectiviste. Donc, bien sûr, il y a l'idée aussi, pour les gens qui voient ça à l'époque, de l'illusion totale. Hein. Il y a vraiment un travail où ce qui fascine les gens, c'est que quand on est face à cette fresque, on a un travail sur la profondeur, hein, sur l'illusionnisme très très grand. Voilà, c'est ce qu'il y a dessous. Et puis... alors, une autre petite chose, il y a un historien de l'art que j'aime bien, qui s'appelle Lydie Huberman, qui a travaillé sur la Renaissance, beaucoup d'autres choses. Alors lui, vous voyez là, on est dans le mimétique, dans la ressemblance, et puis ça va continuer en fait. Hein. Mais il a essayé de travailler sur les images, les figures divines, donc le Quattrocento, hein, c'est Fra Angelico au couvent San Marco, et sur les figures de la dissemblance, cette idée qu'on pourrait donner une image de Dieu qui ne soit pas dans la ressemblance, mais la dissemblance. Alors je suis dans l'abstrait. Alors, je ne sais pas trop en couleur, je suis désolé, j'ai pris dans le bouquin d'Eddie Berman, en fait. Vous voyez, Pollock, tachiste, quoi. Hein, c'est-à-dire que pour lui, il a vraiment, c'est sous une madone qui s'appelle la madone de l'ombre, hein, et vraiment, pour lui, il lui semble que ce travail de Frangelico, n'est grand lecteur, etc., n'est pas du tout innocent. Hein. C'est-à-dire qu'il pense aussi, et puis il y a d'autres textes que retrouve Eddie Berman, que je vais pouvoir parler de Dieu, mais je ne vais pas pouvoir donner son image, c'est impossible, mais je peux faire quelque chose qui est du côté de la peinture et qui, dans la dissemblance, permet de représenter l'irreprésentable. Hein, l'irreprésentable. Alors, c'est pas ça. Et juste, voilà, il y a aussi un tableau de Andrea del Castagno qui est intéressante. Donc c'est une scène, hein, et derrière, vous voyez, il y a des sortes de représentations aussi qui sont totalement abstraites. Hein. Donc on peut penser aussi sous la figure de la dissemblance, on va dire. Voilà. Après, il y a cette histoire du dieu planant. Hein. Alors vous voyez, c'est-à-dire que, bon, aussi une chose qui peut transversalement se penser, évidemment, c'est le rapport... le dieu en majesté, le rapport aux empereurs, hein, romains par exemple. Donc il y a cette figure, le trône aussi. Et là, donc le dieu planant, on va dire, donc Michel-Ange, Et je suis très vite du côté, en fait, du réinvestissement des dieux grecs, romains, Jupiter. Il y a un côté très jupitérien dans les dieux de Michel-Ange, en général. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Donc, Sixtine, bien sûr. Bien sûr aussi. Alors, je ne sais pas, quand je disais des choses ces temps-ci, ça a l'air d'être la figure de dieu la plus connue, on va dire, ou celle qui... Voilà, c'est-à-dire tout le monde a... C'est, sans doute, enfin, je ne sais pas, mais oui. Hein, on a donc le dieu barbu, le dieu un peu jupitérien, le dieu planant. Vous voyez que c'est une ambiguïté. Hein, c'est-à-dire que le dieu de byzantin, il est, il flotte pas. Enfin, il est dans un autre espace, hein, en quelque sorte. Et puis surtout, il nous regarde, on est sous son regard. Ce dieu, évidemment, renaissance et post-renaissance, il est un dieu qui... être dans l'air, mais être dans l'air planant, c'est déjà être dans un espace perfectiviste, évidemment. Voilà. Alors, bon. Après, moi, j'aime beaucoup Caravage. Donc, alors, donc, je regarde l'heure. Donc, clair-obscur, je trouve que là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, donc là, c'est le souper... à Emmaüs, c'est Dieu, il est, enfin le Christ ressuscité, et qui croise les apôtres sur son chemin, qu'ils ne reconnaissent pas. Et au moment où il mange, il fait le signe de bénédiction du pain, et donc à ce moment-là, les apôtres le reconnaissent, et à ce moment-là, il disparaît. Alors ça fait penser à d'autres choses, c'est que, par exemple, le Christ dans le Nouveau Testament n'est jamais décrit. On a des images, il y a d'autres personnes qui sont écrites, mais il y aurait aussi comme une l'idée qu'on ne sait pas à quoi ressemble le Christ. Jamais c'est mentionné. Et le Christ ne parle jamais des images non plus. Il y a des sortes de choses qui sont intéressantes de se penser là. Voilà, il est à côté de ça. Donc il y aurait aussi, pour le Christ, ne pas parler des images, et qu'il n'y ait pas d'image du Christ, irait vers quelque chose, je ne sais pas, ce qu'on appelle après le polymorphisme, enfin il peut prendre donc plusieurs formes, on va dire. Donc là, vous voyez, là, c'est, je trouve, Caravage, il travaille beaucoup, clair-obscur. Hein, donc, il y a cette... l'heure, je peux continuer un peu? Non, il faut que j'arrête, là.
Tu peux finir, là?
Oui, si je veux finir. Je peux finir. Juste une chose, alors, peut-être sur Caravage, c'est juste parce que ça donne une idée aussi, enfin, de ce qui se... fait annonciateur. Donc le Caravage, il est pensé comme un peintre qui fascine totalement à l'époque, on va dire le premier qui fait une peinture d'un hyper-réalisme, je ne sais pas comment dire, hein, ça fascine beaucoup les gens, et bien sûr, il y a aussi un travail d'humanisation, c'est-à-dire ces Madones, ces Christ, vraiment, sont très très humains. Et alors, pour des tas de raisons là que je ne vais pas pouvoir vous expliquer parce qu'elles sont un peu longues, un travail d'historien de l'art, en fait, on peut vraiment penser que Caravage, pour moi, il est très pré-photographique. Et la façon dont il travaillait était très de ce côté-là. Donc, vous savez que si vous êtes dans une pièce noire et qu'il y a un petit trou dans un mur, il y a l'image du dehors, et qu'il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, l'image du dehors se projette sur le mur inversé. C'est le principe de la boîte photographique, caméra obscura, qu'on travaille à la Renaissance. Donc, on sait que Caravage avait des instruments d'optique. Et donc, on peut tout à fait penser, et puis des expériences qui ont été refaites, vous êtes dans une pièce, par exemple, un peu obscure, et il y a juste un espace d'ouverture pas très grand, et vous faites poser des gens devant cet espace. L'image de ces gens va se projeter, naturellement, si je puis dire, sur le mur en face, à l'envers. On peut assez bien supposer que Caravage y commence par utiliser cette sorte de diapositive, si vous voulez, parce qu'on a retrouvé dans sa peinture des traces de pinceau, hein, qui correspondent à certaines lignes des personnages, et on peut penser qu'il fait poser les gens, mais à un moment les gens ils se reposent, et pour qu'ils reprennent la même pose, il marque ses petits repères. Donc vous voyez, il y aurait déjà un usage par le Caravage de ce qui va devenir la photographie, puisque la photographie c'est juste finalement une façon de réutiliser cette idée de chambre obscure, de projection lumineuse très ancienne, mais de trouver quelque chose du côté de la chimie qui permet de garder une empreinte de cette image. Hein. Donc je trouve ça très intéressant aussi parce que Caravage, il est du côté de l'instant. Très souvent, toute sa peinture, c'est des instants, c'est un bref instant. Là, c'est un bref instant parce que c'est juste avant la disparition. Donc je trouve vraiment il y a beaucoup de choses à penser. Et dans tous les tableaux de Caravage, c'est l'instant où une personne se fait mordre, l'instant où Saint-Jean est décapité. Et il y a un grand, grand travail sur l'instant où le suspense. Voilà, et puis... Voilà. Après, de toute façon, ça disparaît. C'est vrai qu'il y a l'humanisme, le réalisme, 18e, 19e, les figures du Christ disparaissent. Les quelques exemples qu'on peut remarquer, William Blake, hein, début du 19e. Et puis, il y a aussi Gaspard David Friedrich, romantisme, hein, donc croix face au levant. Et le cadre, c'est Friedrich qui le fait faire. Donc on retrouve aussi une chose dont je n'ai pas parlé, mais on retrouve en bas le triangle avec l'œil, hein, qui est aussi une des figures du divin. Et puis, néoclassicisme, vous voyez, donc Ingres, hein, voilà, aussi, la Vierge à l'hostie. Alors, aussi dans, là, donc, début 19e, les pré-raphaélites, hein, d'ailleurs, donc, ils veulent retourner à, disons, une peinture de type, ils veulent retourner à quelque chose d'avant Raphaël. Et donc, dans les pré-raphaélites, vont développer comme ça aussi de rares exemples, hein, ce début 19e, de ces figures-là. Donc, ça, c'est donc le Christ, et ça s'appelle l'ombre de la mort, quelque chose comme ça. Hein. Donc, on voit l'ombre derrière. Ça, c'est une annonciation, Dante Gabriel Rossetti. Hein. Burne Jones, annonciation aussi. Et puis, voilà, alors ça, c'est Bouguereau. Hein, peinture, on va dire. Pompier, quoi, je sais pas, hein, quelque chose comme ça. Hein. Bouguereau. Donc voilà, donc Bouguereau, il fait plein de choses. Pas mal de jeunes femmes nues, mais aussi des vierges. Hein. Voilà. Hein, donc là, on est vraiment le chromo, un peu, quoi. Pietà. Et puis. Puis ça va finir. Et donc une dernière juste. Voilà, parce que. Donc une peinture de Manet, donc vers donc milieu du 19e siècle. Et Manet, j'en parlerai donc la prochaine fois peut-être, c'est donc dans les peintres, il est vraiment intéressant parce qu'il repense beaucoup l'histoire de la peinture. Alors donc il fait un Christ, alors il est à l'histoire, bon il l'appelle Christ mort, mais en fait il s'est appelé Christ ressuscitant, ce qu'ont développé certains historiens de l'art, c'est le côté très présentation, on va dire, du Christ, hein, dans le fauteuil, enfin dans sorte de fauteuil avec le linceul. Et Manet, il a beaucoup travaillé, en fait, finalement, sur les conditions de présentation de l'œuvre d'art, hein, quelque chose comme ça. Donc là, on a quelqu'un qui, en même temps, qui montre le Christ, montre la façon de présenter le Christ, etc. etc. Et bien, voilà.